The 5 to 6 p.m. on the CRTV Radio Network, a presentation of Maureen Wanzi-Wilai and Larissa Engano. The headlines.
Au sommaire du 17-18, le couple présidentiel au chevet des blessés de l'accident d'hier sur l'axe San Melima-Yaoundé. Leur prise en charge est entièrement gratuite et la bonne nouvelle est du ministre de l'administration territoriale, Paul Atanganji, a rencontré les familles des victimes ce jeudi. Détail dans ce journal.
As universities open their doors for the 2024-2025 academic year in Cameroon, there are concerns about the shortage of student accommodation off and on campus, which has led to exponential rise in rents. Regina Ngale Ndoko, in this edition of the 5 to 6 p.m., presents the situation in the University of Boya.
Écran noir, ça tourne pour les activités de lancement de la 28e édition. Le coup d'envoi a été donné ce jour, ici à la Maison de la Radio, par une conférence de presse sur les coulisses et la scène de l'événement prévu du 19 au 26 octobre prochain. Acteur majeur du rendez-vous et partenaire historique, la CIRTV. Plan feu sur la partition de l'office cette année et sur les charmes de cette 28e édition.
Many parts in Cameroon will experience heavy rains as from mid-October, according to a report from the National Observatory on Climate Change. An expert in international climate politics will be our guest on the 5 to 6 p.m. with insights in the matter.
Et puis Sport Football Cameroun-Kenya, repérage, ultime tour de chauffe et mise en place tactique avant le duel de ce 12 octobre. Lions Indomptables et Harambee Stars effectuent leur dernière séance d'entraînement ce soir. Également au programme, la conférence de presse d'avant-match. Morceau choisi en page des sports vers la fin de ce journal.
Cameroon Indomitable Lions and Kenya's Harambee Stars today hold news conferences before training sessions ahead of their AFCON qualifiers clash tomorrow in Yaoundé. This and more will make up our sports package, and those were our top stories.
Le 17-18, c'est 60 minutes de nouvelles et d'actu prospective sur les grands moments de la nation. Le focus du jour, le sport, l'actu international, le grand reportage, l'interview et l'invité du 17-18 pour vous informer en direct du poste national de la CRTV.
Thanks for joining us on the 5 to 6 p.m. It is our honor to have you on the CRTV Radio Network. President Paul Biya has ordered the disbursement of financial assistance for families of the bereaved and the injured following yesterday's fatal road accident at Kombe Village in San Melima South Region. The presidential gesture was announced by the Minister of Territorial Administration, Paul Atanganji, who is bearer of a message of condolence and compassion. He was accompanied to San Melima by the Minister of Finance and Elite of the Jar and Labor Division, Louis Paul Mutase. Alban Jem Bonde reports from San Melima.
Je portais mon enfant, moi je ne connais pas comment je me suis retrouvée dehors avec l'enfant.
Myriam Ngono, carrying Zachary Henry, her 8-month-old baby, explaining how she miraculously found herself out of the bus and finding other passengers dead.
Je remercie Dieu parce qu'il m'a fait sortir de cet accident.
They are among the three survivors of the Kombe accident placed under observation at the San Melima District Hospital. Ministers Paul Atanganji and Louis Paul Mutase listened to her testimony with rapt attention. Her survival is a miracle indeed. Next door at the San Melima Referral Hospital are five victims on intensive health care. One was undergoing operation when the members of government got there. Escorted by Professor Dominic Nuanua, Director General of the facility, and in the presence of the South Governor, Felix Ngelengele, and regional and divisional administrative and security officials, they are told that five of the most serious cases have been referred to Yaoundé. Earlier on, the two ministers stopped at the accident site, which is reported to be among accident-prone sites of the Bamayo-San Melima Road. Shoes, clothes, and other personal belongings of victims, as well as the wreckage of the bus and truck that collided, speak of the violence of the shock. While extending the message of condolence and compassion of President Paul Biya and wife Chantal Biya, Paul Atanganji announced that the head of state has disbursed financial assistance to the victims and families to the injured victims and families of the bereaved, reiterating that the presidential couple are sensitive to the incident. He announced that preliminary investigations already indicate that the accident is born of human errors. Albert Njembonde, Guy Joel Noah, on special assignment, Sangmélima.
Les blessés de l'accident qui a fait 15 morts hier sur l'axe Sangmélima-Yaoundé seront totalement pris en charge. La décision du président de la République a été annoncée aujourd'hui aux familles des victimes par le ministre de l'administration territoriale. Paula Tanganji s'est rendue au chevet de ses blessés pour leur apporter le message de réconfort du couple présidentiel. Il était accompagné du ministre des Finances, lui Paul Moutazeux, élite de Sangmélima, et du gouverneur de la région du Sud, Félix Ngelengeli. Voici le reportage de Constance Zeux, envoyé spécial de la CIRTV à Sangmélima.
Moment de recueillement à la morgue de l'hôpital de référence de Sangmélima. Le ministre de l'administration territoriale et celui des finances tiennent à partager la douleur des familles au cours d'une messe de circonstances. Paul Atanganji transmet les condoléances du couple présidentiel Paul et Chantal Biya aux familles endeuillées ainsi que les souhaits de prompt rétablissement aux blessés. Le ministre de l'administration territoriale annonce aussi une dotation financière spéciale accordée par le chef de l'État aux familles éprouvées. C'est par le lieu du drame à Kombé que la descente sur le terrain des membres du gouvernement débute à Sangmélima. Paul Atanganji, élu Paul Moutazé, élite du coin, sont sans voix quand ils se font expliquer les circonstances de l'accident mortel dans un virage accidentogène qui a fait 15 morts.
Ce virage particulièrement, rarement que nous traversons un, deux, trois mois sans accident régulièrement mortel.
À l'hôpital des décès de Sangmélima, Myriam Brenda Ongono est une miraculée avec son bébé de 8 mois.
Je m'en souviens quand même que j'avais l'enfant sur moi, mais dehors, je ne connais pas vraiment la personne qui m'a mis dehors.
L'état des 8 blessés référés dans les deux hôpitaux de Sangmélima est jugé stable par les responsables. Sangmélima, Joël Noir, Constance Z, CRTV.
Et le ministre de l'administration territoriale justifie sa présence auprès des sinistrés de l'accident de Kombé qui a fait 15 morts. Écoutons Paul Atanganji dans cet extrait de sa prise de parole au cours d'une séance de travail avec les familles des victimes. Extrait sélectionné par Constance.
Aussitôt informé de cet accident qui s'est produit hier matin, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, m'a chargé de me rendre ici pour trois choses. D'abord, transmettre son message de condoléances ainsi que celui de la première dame aux familles endeuillées tout en souhaitant prompt rétablissement aux blessés. Le président de la République a également décidé une prise en charge totale des soins ainsi qu'une dotation spéciale aux familles endeuillées et aux blessés. Nous sommes donc ici pour faire exécuter les très hautes directives du chef de l'État, qui est très peiné par cet accident tragique.
Paul Atanganji, ministre de l'administration territoriale, ce jeudi à Sangmélima. 17h09, Maureen. L'actualité, c'est également la dématérialisation des procédures dans les marchés publics.
That's right, Larissa. A platform for the dematerialization of procedures in the world of public contracts in Cameroon has been officially launched in Yaoundé today. The Cameroon Online e-procurement system platform has been launched by the Minister Delegate at the Presidency in charge of public contracts, Ibrahim Taba Mala, who said that it will help improve on the robustness, transparency and equity in the award of public contracts. He now is the Minister Delegate at the Presidency in charge of public contracts, Ibrahim Taba Mala, on how the COLEPS platform will improve on the performance in the public contract sector. He spoke to Ngu Henry.
This project is going on very well, and we have achieved two phases of our project. And at this level, we have ended all the execution of this project. But now we are waiting for the third phase. In the third phase should be concerned the sophistication of the project and the interoperability between the different actors. We have to do it very well and quickly because the digitalization over the world is not waiting for Cameroon. We have to go faster.
The minister delegate at the presidency in charge of public contracts, Ibrahim Taba Mala, talking to Ngu Henry. As you heard in one of our top stories, students in Boya continue to face acute housing crisis, further compounded by shortage of on-campus accommodation. Landlords and real estate agents have taken advantage of the situation. There are growing calls for regulatory measures to protect students from unfair practices by landlords and real estate agents. Regina Ngale Ndoko reports on these mounting challenges.
For over 2 hours, lecturers, students and administrative staff of the University of Boya engaged in a robust discussion on the challenges facing curriculum reform in Cameroon's educational system. In her presentation, the Dean of the Faculty of Education, Professor Endeli Margaret Naloa, stressed the pressing need for a more practical, skills-oriented curriculum that better equips students for the demands of the real world.
Curriculum is a tool for education, and because our society evolves, skills change, we need to update the curriculum to be able to respond to these changes.
This inaugural lecture marks the beginning of 14 weeks of dynamic and engaging teaching and learning at the University of Boya. Professor Horace Ngomomanga is the Vice Chancellor.
We are back to work, and it highlights the essence of profound intellectual content. That's the whole purpose.
Over 6,000 freshmen will join returning students on Wednesday, the 9th, to kick off the academic year across the university's 8 faculties and 4 schools. Regina Ngale, Ndoko, CRTV News, Boya.
The Secretary of State in the Ministry of Public Works in charge of roads, Dr. Ama Njodam, has called on youths of the Mbumba and Ngoko division in the east to study hard so as to claim their position as leaders of tomorrow. He was speaking during an Academic Excellence Award where he also awarded prizes to some outstanding teachers of the division. We'll come back to this report subsequently. Physically challenged persons in Bamenda have saluted efforts made by the Office of the Public Independent Counselor for the Northwest in curbing different forms of discrimination they face at the level of councils. During a one-day outdoor sensitization program with members of the PIC in Bamenda, these vulnerable persons were taught on their rights and how to channel complaints to the Public Independent Counselor for better council management. Veronica Aji tells us more.
Persons living with different forms of impairment in Bamenda have disclosed they are asked to pay money for free services and often looked down when in need of information in councils, which has made them shy away from other developmental projects. Nelson D., Research Officer No. 1 at the Office of the Public Independent Conciliator for the Northwest, says they are determined to probe into such discriminations.
Part of it is that they don't know that they have rights, and they don't know how to claim these rights.
These men and women say the outdoor sensitization meeting with members of the PIC is timely.
Nunying Amel, president of Community Creative Center for Women and Girls with Disability. This is actually an answered prayers, because from now henceforth, persons with disability, we know who to target and we know where to channel a challenge if we are not given their full rights.
Officials of the Public Independent Conciliator for the Northwest have disclosed between 2021 till October 2024, over 187 complaints have been deposited by the population, and council executives are becoming more conscious, giving room to the people to channel in their developmental ideas and worries. Veronica Aji, CRTV News, Bamenda.
The 32nd edition of World Mental Health Day was celebrated with a focus on the theme Mental Health, a Priority in the Professional Milieu, organized by the International Organization for Migration, or IOM, in collaboration with several NGOs. The event drew attention to the growing need for mental well-being in professional environments. Faith Ngwang reports.
Creative performances, including thought-provoking sketches and vibrant slams, brought to life the challenges of mental health in the workplace, urging for greater care and support systems. Christelle Camdom, a nurse specialized in mental health care, highlights the crucial role of mental health in enhancing productivity and overall workplace efficiency.
We ought to make our mental health a priority where we are working. We ought to take care of our mental health by doing sport, by doing activities that are helping us to feel good, to sleep well, and to be good with our environment.
The day's activities reinforced the message that prioritizing mental health in the professional space is key to sustaining a healthy and efficient workforce. The ceremony concluded with a tour of stands that offered insights into available mental health services and resources. Marua, Faith Ngwang, CRTV.
The West Regional Committee for the Fight Against Illicit Drugs has divulged that they are engaged and determined to protect the population from contraband and expired drugs. They took the commitment today in Bafoussam during an operation to destroy illegal drugs seized by the National Gendarmerie and Customs sector in the West region, accounting to over 500 million CFA francs. Here is the report with Eric Langmia Wufo.
Health officials intimate that most of them were expired and dangerous for human consumption. The Secretary General at the West Governor's Office, Adre Epente Taze, who supervised the destruction operation at Banifo in Bafoussam, said they are determined to protect the population from expired and fake drugs.
These drugs that you see today cost more than 500 billion. We are seizing once more this occasion to asking people who are behind this illicit activity to stop. If not, our forces of law will continue to fight against them, and to our population, we are asking them to go to the hospital or to the pharmacy and buy their drugs.
The seizure of illegal drugs was conducted by a joint operation by the Gendarmerie Legion and the Customs Sector for the West. The Legion commander for the Gendarmerie, Kene Abasaido, disclosed that their mission goes beyond protecting the population and its goods.
The first mission for us is to take care of the security of the person and their properties. But the higher command had another special mission to us, the health. Take care of the health of the population.
The West region has a large market for illegal and thick drugs said to come from a neighboring country and the littoral region of Cameroon. Eric Langmia Wufo, CRTV News, Bafoussam.
18 minutes past 5. You're listening to the 5 to 6 p.m. on the national station of the CRTV. Larissa, we continue with diplomatic affairs.
Le haut commissaire du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord au Cameroun visitaient ce jeudi le chantier de construction du barrage hydroélectrique de Nachtigal. Matt Woods s'est félicité de la contribution du Royaume-Uni chiffrée à hauteur de 50 milliards de francs CFA dans la réalisation du projet véritable fleuron de la coopération Cameroun-Royaume-Uni. Modernisation du système des marchés publics, bientôt la généralisation de l'utilisation de la plateforme informatique COLEPS, entendez Cameroon Online e-Procurement System, dans les procédures de passation, de suivi et d'exécution des marchés. Le ministre délégué à la présidence chargé des marchés publics a lancé ce matin à Yaoundé la campagne nationale de vulgarisation, de sensibilisation et de formation des acteurs du secteur. L'ambition étant d'atteindre 90% de marchés passés par voie électronique dès janvier 2025. Dixit Ibrahim Talbamala, que je vous propose d'écouter.
Nous avons atteint les objectifs quantitatifs et qualitatifs de notre première phase, c'est-à-dire nous avons atteint le nombre de marchés passés et les valeurs qui doivent être passées dans cette phase. La deuxième phase est aussi bien accomplie et nous avons reçu même le satisfait de la mission du FMI concernant cette exécution-là. Maintenant, nous nous acheminons vers la troisième phase de ce projet qui concerne un peu plus la sophistication de tout ce qui a été mis en place, aussi bien le hard que le soft, pour permettre d'aller plus loin, mais aussi on a allié à ça l'interopérabilité, de telle sorte que entre les acteurs, nous n'avons pas les barrières informatiques et même sécuritaires. Donc c'est pour le bonheur des marchés publics, et qui dit marché public dit les investissements publics.
Des propos recueillis par Toussaint Bom Anya. Nous vous le disions en titre, la 28e édition du festival Écran Noir se tiendra du 19 au 26 octobre 2024 sous le thème « Intelligence artificielle et cinéma africain ». Information rendue publique ce jeudi à la faveur d'une conférence de presse donnée ici même à la Maison de la Radio. Hommage à Alphonse Béni, RCA, Pays à l'honneur, émission quotidienne. Voilà quelques innovations qui vont agrémenter cette édition. Daniel Sopo.
La 28e édition des Écrans Noirs s'interroge sur l'impact de l'intelligence artificielle sur la création cinématographique en Afrique. Il est question de voir comment les technologies émergentes peuvent transformer les narrations et les productions. Ces problématiques seront débattues les 21 et 22 octobre à la Maison de la Radio en présence de professionnels et d'acteurs de renom. Bassek Bakobio, délégué général des Écrans Noirs.
Et je remercie beaucoup la CRTU de toutes ces facilités qui nous sont offertes. Je suis très content déjà de ce partenariat. Et je sais que ce sera une très bonne édition parce que nous avons des personnalités de renom qui vont être là, à la fois pour les jeunes et à la fois pour un public ancien. La CRTU peut vous promettre dans les prochains jours la diffusion des films de qualité que nos jeunes Camerounais ont réalisés, n'est-ce pas, et que nous allons remettre en paquet.
Le jury, quatre catégories sélectionnées internationales, documentaire, Afrique centrale, Cameroun, série et web série. Pour les sélections documentaires, films, courts et longs métrages, 11 catégories, la presse présente a également échangé sur les innovations des écrans noirs 2024. Docteur Calvin Boris Yadia, coordonnateur du festival.
Nous avons ouvert une brèche pour les web comédiens. Nous allons rendre hommage à Alphonse Béni. Nous avons aussi la journée du cinéma centrafricain. Nous avons le cinéma de minuit, qui est un débat diffusé chaque jour.
Plusieurs autres partenaires ont pris part à cette conférence de presse pour une meilleure tenue des activités. Rendez-vous les 19 et 26 octobre pour les cérémonies d'ouverture et de clôture au Palais des Congrès de Yaoundé et le 20 octobre au village des Écrans Noirs. Ce sera au Musée National de Yaoundé.
La CRTV, partenaire historique des Écrans Noirs, a le devoir d'accompagner ce festival qui participe de la promotion du cinéma camerounais. Écoutons à ce propos Madeleine Sopikoto, directeur central du pôle radio de l'Office.
La CRTV étant la structure qui a la mission de promouvoir tous les arts, la CRTV sera là pour lancer un appel à tous ceux qui vont vivre les émotions de cette 28e édition du festival Écran Noir cette année pour dire nous avons le devoir en tant qu'Africains, en tant que médias, d'accompagner ce rendez-vous pour que chaque fois qu'on énumère ou qu'on feuillette le cahier des festivals dans le monde, qu'à chaque fois on se dise il y a aussi les écrans noirs, il y a eu les écrans noirs, il y aura encore les écrans noirs. La CRTV va également proposer la maison de la radio, la salle de conférence, les studios de radiovision et toutes les autres salles de rendez-vous, les salles de spectacle que les différents visiteurs vont pouvoir suivre ici au niveau de la CRTV. Ce sont des infrastructures importantes dont nous avons hérité de la CAN et qu'il est bon que ce cadre-là physique soit également mis à contribution pour faire vivre une fois de plus le 7e art.
Madeleine Sopikoto, directeur central du pôle radio de la CRTV au micro de Daniel Sopo. Et mal utilisée, l'intelligence artificielle libère l'imagination des malfrats. Aidé par cette technologie, certains se faisaient passer pour le commissaire divisionnaire Isabelle Fouda, commissaire à l'immigration du centre. Les deux jeunes cybercriminels de 22 et 23 ans appréhendés par la police il y a tout juste quelques temps ont été présentés à la presse en même temps que quatre autres malfrats spécialisés dans les agressions à bord de taxis. Le commissaire central numéro 1 de la ville de Yaoundé, à l'origine de ce coup de filet, invite les citoyens à redoubler de vigilance sur les réseaux sociaux et une fois la nuit tombée, retour sur les faits avec Clarisse Ndjonga.
Depuis le mois de mars, ils sillonnent la ville, de jour comme de nuit, à la recherche de nouvelles proies. Après un énième forfait, le groupe de quatre, tous des repris de justice, sera appréhendé par les éléments du commissariat central numéro 1 de la ville de Yaoundé. Commissaire divisionnaire Thierry Medou.
Au début du mois, ils agressent le nommé Ndong Fak Ndongmo Karamo et l'ont jeté ici à Hippodrome, dans la zone sombre. Et Dieu merci, il y a une moto qui passait par là, qui a accepté de prendre Ndong Fak Ndongmo Karamo et ils ont commencé à suivre le taxi. Et dès qu'ils ont rencontré une patrouille du commissariat central numéro 1 de la ville de Yaoundé, leur ont signalé et la patrouille s'est mise aussi à leur trousse.
Les mêmes éléments du commissariat central numéro 1 aidé par une victime, ont interpellé courant septembre deux jeunes cybercriminels âgés respectivement de 22 et 23 ans. Dissimulés derrière un écran d'ordinateur et smartphone, sous de faux comptes Facebook, ils utilisaient des générateurs de voix pour se faire passer pour le commissaire à l'immigration du centre.
Le commissaire du Genève, Fouda Isabelle, dénonçait l'utilisation de son image dans l'optique de produire les titres identitaires divers. Il ne demandait pas de gros montants. 25 000 pour mettre l'admission au concours de la police.
Commissaire divisionnaire Thierry Medou.
Avant même d'entrer dans un taxi, vous enregistrez le numéro d'immatriculation quelque part. Si par exemple dans la nuit, vous avez des lumières tamisées, vitres fumées, il faut faire extrêmement attention. Et puis se rassurer que étant à l'intérieur du taxi, on peut ouvrir la portière.
1500 et 117, voilà deux numéros à composer en cas d'urgence.
Dans un registre plus light, Maureen, à 17h passé de 25 minutes, nouveau coup de projecteur sur les bons points de la diplomatie, coopération Cameroun-Royaume-Uni.
The new British High Commissioner to Cameroon has hailed the quality of work done at the Nachtigal Hydropower Plant construction site. Matthew Woods was speaking today in Bachenga, where the project is found for an inspection mission. The British are one of the key financiers of the construction of the power plant to generate 420 megawatts of electricity. The 28th edition of the Ecran Noir Film Festival comes up from the 19th to the 26th October 2024 in Yaoundé, with focus on the impact of artificial intelligence on cinematographic creations in Africa. Information revealed today in a press conference at the CLTV National Station, where the festival's promoter, Basek Bakobio, announced a debate on the 21st and 22nd October in the cooperation on how emerging technologies can transform film production. This is in a bid to foster the production of much more quality films in Cameroon and Africa at large. On to this report, we're coming back to this report. The Secretary of State in the Ministry of Public Works in charge of roads, Dr. Amang Njodom, has called on youths of the Mbumba and Ngoko division in the East to study hard so as to claim their position as leaders of tomorrow. He was speaking during an Academic Excellence Award, where he also awarded prizes to some outstanding teachers of the division. Tala Elti.
According to the Secretary of State in the Ministry of Public Works in charge of roads, Dr. Amang Njodom, children of the Mbumba Ngoko division cannot have quality education if their teachers are not comfortable.
We did not forget teacher because they are the one who help to form their collaborator. The only way is to give them all tools that will permit them to improve their knowledge and to be more efficient.
This Academic Excellence Award ceremony to some meritorious students, pupils and teachers from the division saw the minister hand to them envelopes containing cash, textbooks, school bags and other didactic materials. Dr. Amang Jodom's modest contribution to education in the area, he says,
I am calling the youth of the Mbumba Ngoko division to work hard, to go to school, to improve themselves so that tomorrow they can do the mission the head of state is asking to the youth.
In a motion of support, which was handed to the senior divisional officer for Mbumba Ngoko, Malafa Johnson Moshi, the population of that division joined their voices to that of Dr. Amang Njodom to thank the head of state, Paul Biya, and reiterate their unflinching support. Tala LT, CRTV News, Yokaduma.
Waste management and the rehabilitation of roads within the capital city are the main projects envisaged for the 2025 financial year. This was disclosed today by the mayor of the Yaoundé City Council, Luc Messia Tangana, during a working session dedicated to the midterm evaluation of the council session, as well as laying down a roadmap for the upcoming year. Colette Jani attended the council session and now reports.
les travaux de voirie, la réhabilitation.
This Thursday session at the Yaoundé City Council was in compliance to the law number 2019/24 of December 24, 2019, that instructs regional and local authorities to establish a mid-term evaluation framework. Chairing the deliberations in the presence of the senior divisional officer for the Mfundi, Marielle Emmanuel Jinteng, the mayor of the Yaoundé City Council, Lukmesi Atangana, said few months to the end of 2024, the council is yet to effectively execute all its budget due to the late award of public contracts and finances, as well as the uncivic behavior of some Yaoundé netizens who destroy and steal working materials for projects under construction within the capital city and its environs. After working in commissions, the councillors agreed that while hoping all projects to be completed by December 2024, the budget for 2025 should give priority to waste management and the rehabilitation of roads in Yaoundé so as to improve the living conditions of the population. They also took the commitment to work together and improve revenue collection and transform the challenges faced by the city council to achievements. The budget for the envisaged projects is expected to be voted during the council's next session in November.
Dans la suite du 17-18, la visite de travail ce jeudi du ministre des Postes et Télécommunications à Douala vient de s'achever chez le second opérateur de téléphonie mobile au programme des rencontres de cette journée. Mined Libom Lilikeng, qui a reprécisé les raisons de ce rendez-vous avec les responsables d'Orange et de MTN, a également annoncé pour demain le point de cette évaluation avec le troisième opérateur de téléphonie mobile. Nous l'écoutons au micro de Flore Ekoulé de CRTV Littoral.
Notre démarche est la preuve que la qualité du service et la qualité d'expérience du consommateur, la protection du consommateur sont les préoccupations de la plus haute autorité et du gouvernement tout entier qui veille à protéger le consommateur. Nous avons discuté avec eux. Nous sommes allés visiter les infrastructures techniques. Nous avons fait des observations. Demain, nous allons faire la même descente auprès de l'opérateur historique qui est Camtel. Après, dans cette visite, je vous garantis que les conclusions qui s'imposent vous seront communiquées.
Retour à Yaoundé où les services climatiques pour la résilience aux catastrophes d'origine météorologique préoccupent. Le sujet est au centre du premier forum national sur les perspectives climatiques au Cameroun, lancé ce matin à Yaoundé. Les travaux s'achèvent demain, vendredi, et visent à initier un dialogue structuré ainsi qu'une collaboration entre les fournisseurs d'informations climatiques, les chercheurs et les utilisateurs de ces données. Landry Dzanga, reportage.
Le présent atelier intervient dans un contexte où le Cameroun est exposé aux aléas climatiques et météorologiques extrêmes en raison de ses territoires de la zone sahélienne touchés par la désertification et de ses territoires des zones côtières menacés par la montée du niveau de la mer. À cause de sa grande diversité, l'impact socio-économique des changements climatiques varie d'une région à une autre. Face à tout cela, la production des données fiables est impérative. Simplice Chindatazo, directeur de la météorologie nationale au ministère des Transports.
Cet événement permet au Cameroun d'avancer dans la mise en œuvre du cadre national des services climatologiques qui facilite le dialogue entre les producteurs des services climatologiques et les utilisateurs de ces services-là, qui va faire en sorte que les services qui sont fournis par les producteurs sont basés sur les besoins des utilisateurs de ces services-là. Ensuite, on va les accompagner à l'utilisation et à l'intégration de ces services dans leurs activités au quotidien.
Pour la mise en œuvre de ce programme baptisé CLIMSA, le Cameroun pourra compter sur l'appui technique de l'Union africaine. Dr Ulrich Diasso, représentant de la Commission de l'Union africaine.
Nous travaillons dans ce sens-là pour voir renforcer les capacités des structures météorologiques de l'Afrique qui permettent aux services météo de pouvoir mettre à niveau et moderniser leurs services afin de répondre aux besoins de ces aléas climatiques.
Pour le secrétaire général du ministère des Transports, Vemani Sombo Amba, le gouvernement reste engagé dans le processus de vulgarisation et de modernisation des services climatiques.
Et les changements climatiques ne choisissent pas leurs victimes. À travers le monde, les catastrophes naturelles générées par ces phénomènes font des dégâts considérables. La résilience ou l'adaptation aux effets des changements climatiques passe par la mobilisation d'importantes ressources financières. Le concept se résume en plusieurs vocables, finances climatiques ou encore finances vertes. On en reparle tout à l'heure dans la tribune du Focus du jour en page magazine de ce journal. Zone de libre-échange continentale africaine, la deuxième édition du Biashara Africa 2024 se poursuit à Kigali, au Rwanda, pour une plus grande implication du secteur privé dans la mise en œuvre rapide du marché unique africain. Le Cameroun répond présent à ce forum du commerce, de l'entreprise et des affaires. Luc, bienvenue au Nana et l'envoyé spécial de la CIRTV à Kigali.
Visible et proactif, le Cameroun est debout à Kigali. Yael Motaze et Odile Moukouri.
Nous sommes à Kigali pour présenter la spécialité camerounaise des thés et infusions 100% naturelles à base de plantes locales.
Je suis venu présenter l'emballage bio-organique.
Pour ces deux créatrices de richesse, le déplacement de Kigali valait la peine.
Et nous avons pu avoir des échanges assez prometteurs avec des partenaires et des investisseurs.
J'ai déjà contacté tout le secteur agroalimentaire. Et j'ai déjà pris leur contact, ils ont pris mon contact.
À l'ouverture du forum sur le commerce, l'entreprise et les affaires de la Zelecaf lancent attardé sur l'accompagnement du secteur privé par les États afin que les entrepreneurs jouent véritablement leur rôle dans la mise en œuvre du marché unique africain. Une fois encore, Yael Motaze et Odile Moukouri.
Nous, entrepreneurs camerounais, souhaitons un accompagnement plus poussé de l'État camerounais.
Au Cameroun, nous avons besoin de l'information.
Faisant partie du groupe des pays pionniers, le Cameroun n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. C'est dans ce sens que l'expertise du Conseil national des chargeurs du Cameroun a été retenue dans le soutien à apporter aux entreprises engagées dans le commerce guidé de la Zelecaf. Kigali, Luc, bienvenue au Nana, CIRTV.
Retour au Cameroun avec cette annonce du président du Conseil électoral, président d'Elections Cameroun et les CAM, qui a l'immense tristesse d'annoncer le décès de l'honorable Mana Chouangélé-Jules, membre du Conseil électoral survenu le 5 octobre 2024 à Kribi des suites de maladie. En cette douloureuse circonstance, le président du Conseil électoral adresse à la famille si durement éprouvée ses condoléances les plus attristées auxquelles il associe l'expression de sa profonde compassion.
The chairperson of the Electoral Board, chairperson of Elections Cameroon, ELECAM, regrets to announce the passing away of Honorable Mana Chouangélé-Jules, member of the Electoral Board on 5th October 2024 in Kribi as a result of illness. In this time of grief, the chairperson of the Electoral Board extends his deepest sympathy to the bereaved family. Funeral details will be made known later. It is a press release signed by the chairperson of the Electoral Board, Eno Abrams Egbe.
Et ce communiqué de presse de la Société nationale des hydrocarbures, SNH, sur l'affaire Glencore. La SNH appelle de nouveau à l'ouverture d'une enquête suite à sa plainte déposée devant le tribunal criminel spécial de Yaoundé le 6 novembre 2023. L'administrateur directeur général de la Société nationale des hydrocarbures porte à l'attention de l'opinion nationale et internationale que dans le cadre des poursuites contre les dirigeants et employés de la multinationale Glencore pour corruption d'agents étrangers, le tribunal pénal de Londres en Grande-Bretagne, la Southwark Crown Court, a siégé ce mercredi 9 octobre 2024 pour une audience de mise en état qui a permis d'arrêter le calendrier procédural. En effet, au cours de cette audience, le juge, en accord avec les avocats de chaque partie, a fixé les principales étapes du procès, notamment les dates de l'échange des preuves, les audiences préliminaires et la date du procès, arrêté pour juin 2027. Cette actualité judiciaire britannique donne l'occasion à la SNH de rappeler qu'elle reste en attente de l'ouverture des auditions au tribunal criminel spécial suite à la plainte qu'elle avait déposée le 6 novembre 2023. Il convient de rappeler que cette plainte de la SNH fait suite à la condamnation de Glencore par la Southwark Crown Court le 3 novembre 2022. L'administrateur directeur général de la SNH garde confiance que les complices camerounais de ces actes criminels reconnus par Glencore seront rapidement identifiés et punis conformément aux dispositions pertinentes du Code pénal camerounais. Yaoundé, le 9 octobre 2024, signé l'administrateur directeur général de la SNH, Adolphe Moudiki.
The Executive General Manager of the National Hydrocarbons Corporation, SNH, informs both the national and international opinion that amid the legal actions against the executives and employees of the multinational Glencore for corruption of foreign agents, a pre-trial hearing was conducted by the South Mark Crown Court in London, United Kingdom, on 9 October 2024, where a procedural timetable was established. During the hearing, the judge, with consensus from the legal representatives of all parties, delineated the key phases of the legal process, including dates for evidence exchange, further pre-trial hearings, and the trial scheduled for June 2027. This development from the UK judiciary provides SNH with an opportunity to remind that it is still awaiting the commencement of hearings by the Special Criminal Court pursuant to its complaint lodged on 6th November 2023. It is worth mentioning that the complaint by SNH is subsequent to Glencore's conviction by the South Wark Crown Court with a ruling dated 3rd November 2022. The Executive General Manager of SNH remains optimistic that the Cameroonian accomplices of these criminal acts recognized by Glencore will be swiftly identified and punished in accordance with the relevant provisions of the Cameroonian Penal Code. A press release signed by the Executive General Manager Adolphe Moutiki.
Et avant l'invité du 17-18 qui s'exprimera sur l'intérêt de la finance verte pour les pays africains face au changement climatique, notamment pour le Cameroun, ce dernier communiqué de presse, cette fois du ministre des Finances, qui au regard du fort engouement observé ces derniers jours dont la souscription des déclarations porte à la connaissance des contribuables non professionnels soumis à la déclaration annuelle de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, que le délai relatif est prorogé au 1er décembre 2024. Aussi, le ministre des Finances félicite-t-il ceux des nombreux contribuables qui, à date, se sont conformés spontanément à cette obligation fiscale. Le ministre des Finances précise en outre que le non-respect de cette obligation déclarative ouvre droit à l'application de sanctions prévues par le livre des procédures fiscales. Afin de faciliter les déclarations des contribuables concernés, des équipes de veille ont été mises en place dans leur centre des impôts de rattachement et au sein de la Direction générale des impôts, ainsi qu'un dispositif d'assistance en ligne, notamment un centre d'appel téléphonique numéro vert gratuit 8200, une plateforme électronique d'assistance Help Desk accessible sur la page d'accueil du site de la Direction générale des impôts www.support.harmonie2.cm, un numéro de messagerie 691-881-881 pour les contribuables résidents à l'étranger. Le ministre des Finances, Louis-Paul Mottaze, compte sur le civisme fiscal de tous.
The Minister of Post and Telecommunications will continue his or her visit to the technical facilities of telecommunications operators at Cameroon Telecommunications on Friday, 11 October 2024. As with the previous visit to Douala, the aim will be to assess the implementation of the recommendations made to the mobile operators and the commitments they made during the recent consultations. It should be recalled that this field visit is a response to the increasingly frequent complaints from users about the gradual deterioration of the services offered to them and is aimed at improving the quality of electronic communication services in Cameroon in keeping with the revert prescriptions of the head of state. At the end of this visit, the Minister of Post and Telecommunications will hold a press briefing in the large conference hall of her ministerial department at 12 noon the same day. Time to take our guest on the 5 to 6 p.m. today. Dr. Brice Dundjok is an expert in international climate politics. In the following interview with Sam Lingam, he outlines the consequences of human actions on nature and discusses the importance of appropriate climate finance mechanisms that can help Cameroon to adapt its development infrastructure to climate change. Take a listen.
Good evening, Dr. Brice Denjok, researcher in international climate politics, and thank you for accepting the invitation of the 5 p.m. news on the CRTV.
My pleasure. Thanks for having me.
Cameroon and the rest of the world are today witnessing the reoccurrence of extreme weather events. What account for these phenomena, and are they new or they have been existing before?
These extreme weather events are undoubtedly due to climate change, which spares no one on the planet. And it is important to understand that the extreme weather events we are experiencing today are the consequence of human action as it arises from greenhouse gas emissions generated by human activities through its consumption of fossil fuel. So climate varies naturally, and if we have to stick to its own variations, our societies will have no difficulty in adapting to it.
How can countries like Cameroon adapt to this extreme weather event?
In addition to developing the policies needed to guide adaptation, the government need to look at the measures such as strengthening vulnerable areas, building infrastructure able to withstand more extreme event weather conditions, enhancing early warning system and access to disaster information, as well as developing public insurance mechanisms specific to climate-related threats. A country like Cameroon also need to engage and harness the private sector financial potential to support its climate agenda. And filling the information and knowledge gap is also of paramount importance, as climate accurate data is not easily available.
This means there should be anticipatory actions. For example, when you look at what happened in Yagua recently.
Sure. And I must praise here the work done by the National Observatory on Climate Change, which has published pertinent forecast that could have helped the government to anticipate.
Cameroon, alongside many other countries, will next November take part in COP29 in Baku, Azerbaijan, to brainstorm on climate change. What do you think should be the focus of African countries during this climate conference?
Africa only accounts for 4% of global emissions. This means that as far as mitigation is concerned, it is the continent's potential that interests the rest of the world. However, as puzzling as it may sound, it is known that Africa suffers the consequences more severely than any other region in the world, and therefore has a greater need to adapt. That's why African countries should focus on adaptation. Among the least developed countries, 27 are in Africa. And the key climate change policy document in those countries is the National Climate Change Adaptation Plan. So this is consistent with the fact that Africa is the most vulnerable region in the world to climate change due to its exposure, its sensitivity, and its low adaptive capacity.
So should they focus on financial mechanisms to have the means for adaptation?
Sure. Adaptation is a priority, and accessing to financial mechanism is a challenge that African countries should cope with.
Do you think it is possible for African countries, and Cameroon in particular, to adapt to climate change effects with poor financial mechanisms? People can barely eat, and you are asking them to adapt to climate change.
Cameroon, as well as Africa as a whole, need financial support to fight against climate change. And mobilizing these resources is a serious challenge for the authorities. So in the near term, the main climate finance resources will likely come from donors. But going forward, a country like Cameroon needs to develop its capital markets, for example, to harvest the potential private funding for climate investment and efficiently engage the private sector in supporting its climate agenda. This requires expertise and consistency in sectoral development plan.
I live in Yagua. I have experienced flooding in the month of September. How do I understand this? Does it mean that the policy makers are the ones to do that, or this also requires the involvement of local actors?
Policy makers are the first to react in these issues.
Dr. Brice Denjok, thank you very much for your availability.
Thank you. Pleasure was mine to be here.
L'actualité hors de nos frontières en quelques escales. République démocratique du Congo, le gouvernement annonce de nouvelles mesures de sécurité après le naufrage d'une embarcation de fortune sur le lac Kivu. Et puis Haïti, le bilan de l'attaque sanglante de la semaine dernière passe de 70 à au moins 115 morts. Boris Lemamoum, stagiaire, nous en dit plus.
Certains proches des disparus lors du dernier naufrage qui a coûté la vie à 33 personnes cherchent encore leur famille dans les eaux du lac. Les naufrages sont de plus en plus fréquents au Congo car plusieurs personnes abandonnent les routes disponibles pour des embarcations de fortune. Parmi les mesures prises par le gouvernement pour y remédier, l'interdiction de naviguer dans la nuit. De leur côté, les propriétaires de bateaux qui craignent un manque à gagner appellent plutôt à mettre en place un dispositif de contrôle technique et une obligation de port de gilets de sauvetage. Dans la nuit du 3 au 4 octobre, des bandes des armées ont ouvert le feu sur des habitants de Ponsondé dans le centre du pays. C'est l'un des plus grands massacres qu'Haïti ait connu dans son histoire récente. Des dizaines de blessés ont été soignés à Saint-Nicolas, le seul hôpital de la ville voisine de Saint-Marc. Selon un groupe local de défense des droits de l'homme, les victimes comprenaient des bébés, des jeunes mères et des personnes âgées. Le gang s'approchant de Ponsondé à bord de pirogues pour prendre les habitants par surprise. Plus de 6200 survivants ont fui la ville.
And West African leaders have imposed sanctions on Mali after the country's military government announced a long delay to the elections originally planned for February. The West African Regional Bloc ECOWAS, which met in Accra on Sunday, agreed to close borders with Mali as well as implement a range of economic sanctions. Mali's military government in response said that it was closing its land and air borders with ECOWAS and recalling its ambassadors from member states.
Le sport dans le 17-18 au petit trot avec Samuel Billon, de retour du stade omnisport de Yaoundé. Bon après-midi Samuel.
Bon après-midi Larissa, bon après-midi à tous.
Cameroun-Kenya de ce vendredi, la fièvre monte avant le coup d'envoi. Les deux équipes sont en pleine séance d'entraînement et les conférences de presse d'avant-match promettent une rencontre engagée demain.
Alors, déclaration forte de l'entraîneur du Kenya. Le Kenya est à Yaoundé pour une mission commando. Briser la glace, imposer un match pénible et une défaite au Lyon à domicile. Le Turc Engin Firat affiche d'ailleurs une sérénité troublante en conférence de presse d'avant-match. Avant de renchérir, son équipe s'est bien préparée pour renverser les pronostics. Elle n'a pas de superstar, plutôt des profils moyens, mais très engagés, solidaires. Et prêt à la manœuvre, le défenseur Joseph Okumu, qui accompagne son entraîneur, n'est pas moins motivé. Avant de rejoindre le reste du groupe sur le rectangle vert de Fandena pour l'unique séance d'entraînement des Harambee Stars sur le sol camerounais. Une séance ouverte à la presse pour les 15 premières minutes. Marbrice et Jackson Tchatchoua, eux, ont répondu au feu nourri de questions de la presse camerounaise dès 15h30. Échange convivial et chaleureux autour de l'état d'esprit de l'attaque dans la tanière, le degré de motivation des joueurs, l'intégration et l'apport des nouveaux éléments, le pic de performance de certains joueurs. Question de journalisme. Monsieur l'entraîneur, avec le retour de Jean-Charles Castelletto et l'arrivée de Flavien Boyomo, allez-vous toujours aligner Michael Gadegadui en défense centrale de la sélection nationale? Marbrice est formel. Pour lui, le défenseur central Michael Gadegadui donne entière satisfaction. Il impressionne par ses qualités techniques et humaines avec en bonus un but à la séance d'entraînement d'hier. Même si Fay Collins n'a pas suffisamment de temps de jeu. Il reste un joueur à fort impact dans le groupe, continue Marbrice. Marbrice qui est prudent, pas d'assurance démesurée, surtout face à une équipe kényane venue à Yaoundé avec une dizaine de défenseurs, dont dans son effectif, et qui va donc à coup sûr ériger un mur dans sa défense avec des assauts offensifs sporadiques. Marbrice est fier de la progression de son groupe, de l'harmonie générale autour de la sélection nationale. De quoi s'attendre Larissa à un match correct pour les Lions ce vendredi. Et c'est au stade de Ngouaïkele que les Lions indomptables tiennent leur dernière séance de mise en place tactique à huis clos.
Les Lions sont à la fois sereins et déterminés, vous l'avez dit. Ils promettent de rugir pour donner satisfaction à leur public. Propos du latéral droit Jackson Tchatchoua, joueur de la Serie A italienne. C'était en conférence de presse d'avant-match.
L'ambiance du groupe, elle a toujours été bonne. Peu importe les situations, je pense qu'on a un groupe très uni et très professionnel. Donc je pense qu'au niveau de l'ambiance, ça n'a jamais changé. Voilà, on continue sur l'état qu'on a toujours eu depuis le début. Je pense qu'on est ici pour gagner. Je ne pense pas à d'autres alternatives, surtout ici à domicile où il y a une très grande attente de nos supporters. Donc je pense qu'on part avec un esprit de gagne. On va donner le maximum pour nous amener à la victoire parce que voilà, c'est des matchs importants pour cette qualification de la CAN où on doit y figurer. Donc on devra donner le maximum de nous-mêmes à chaque match afin de finir dans la meilleure position dans cette poule.
The head coach of the Indomitable Lions and defender Jackson Tchatchoua have promised that they will secure Cameroon all the 3 points in tomorrow's AFCON 2025 qualifiers against the Harambee Stars of Kenya. They were speaking at the pre-match conference, press conference this afternoon at the Ahmadu Ahidjo Stadium. The Lions are currently having their last training session ahead of the encounter at the Ngouaïkele Stadium. Here now is Mark Brace's promise for tomorrow's match, selected by Harrison Ashotiko.
Winning at 3 points, I think it's the right of the people of Cameroon to demand that of us. So try to accomplish this work and we will do, like Jackson said, our ultimate best to achieve in these things. But football stays football. Till now we didn't lose and we have to restart with the victories. We want to play also later World Cup. These things, these ambitions are very high. I think the quality is there. It's up to us to take it out of the team. Everybody in the selection, from players to the people who have to take care of us, for the coaches, the technical staff, everybody wants the highest. Pressure is part of our job, so it will be too easy and not correct of us to start crying about this situation. Deal with the situation, we have the habit to do that. And every time we have to see what the opponent can bring, what we can offer against them.
Enthousiasme et bonne vibration qui referme cette page des sports. Merci Samuel.
Merci Larissa, au revoir.
Et avant de clôturer le 17-18, ce communiqué de presse qui nous parvient à l'instant, dans le cadre du respect de la réglementation en vigueur en exécution du projet Ndole City, avec rigueur et à la suite de la réunion du 5 septembre 2024 tenue dans les services du Premier ministre chef du gouvernement, l'Assemblée générale extraordinaire de la société Impex Trading Sal a décidé de l'augmentation du capital social de l'entreprise et de sa transformation en société anonyme avec conseil d'administration à travers la cession de 3 280 000 parts sociales à 50 000 francs CFA, la part pour une valeur totale de 180 milliards 400 millions de francs CFA, représentant 2,77% du droit de tirage autorisé par la très haute instruction du chef de l'État dans le cadre de la mise en œuvre du projet Ndole City et ses projets intégrés. Les cabinets, conseils et les sociétés dont les noms suivent sont mandatés pour encadrer les différentes opérations. Cabinet Lega de Nice, Douala, cabinet Thiemekin, Douala, cabinet NDP Tchok Francis à Yaoundé, SCP Ngali Mbou et 2T Douala, cabinet Mboufor John Yaoundé, cabinet Matiwa Solange Yaoundé, cabinet Belibi Alain Yaoundé, cabinet JP Ikwe and Patnos Yaoundé, cabinet Maître Mukuri Yango Douala, société groupe Tati à Douala, société Impex Trading à Yaoundé, c'est signé du directeur général d'Impex Trading, Ngosso Abraham Junior. Cet arrêté portant nomination d'un responsable au ministère des Forêts et de la Faune. Le ministre des Forêts et de la Faune arrête. Article 1er est à compter de la date de signature du présent arrêté, nommé au poste ci-après au ministère des Forêts et de la Faune. Secrétariat général, direction des affaires générales, sous-direction des personnels de la solde et des pensions, service de l'action sociale, chef de service, Madame Zobo Elundu Nicole, cadre contractuel d'administration, précédemment chef de bureau du personnel non fonctionnaire, en remplacement de Madame Bialone Ambani Atanganadej, Dorothée admise en stage. L'intéressé aura droit aux avantages de toute nature prévus par la réglementation en vigueur. Le présent arrêté sera enregistré et publié selon la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais. Yaoundé, le 10 octobre 2024, signé le ministre des Forêts et de la Faune, Jules Doré Ndongo. Cet autre arrêté portant nomination de responsables dans les services déconcentrés du ministère des Enseignements secondaires. Le ministre des Enseignements secondaires arrête, article 1er, sont à compter de la date de signature du présent arrêté nommé au poste ci-après dans les services déconcentrés du ministère des Enseignements secondaires. Délégation régionale des Enseignements secondaires de la Damawa, délégation départementale du Faro et des Yo, CES de Gassangel, directeur M. Biroué Bonaventure, professeur des collèges d'enseignement secondaire précédemment en service dans le dit établissement. Délégation régionale des enseignements secondaires du centre, délégation départementale du Mbame Inoubou, Cétique de Roum, directeur M. Kung Raymond, professeur des lycées d'enseignement technique et professionnel précédemment en service dans le dit établissement. Délégation départementale du Nyongesso, CES de Mbanga Dzeng, directeur M. Tafak Tobni Serge, professeur des lycées d'enseignement secondaire général précédemment en service dans le dit établissement. Délégation régionale des enseignements secondaires de l'extrême nord. Délégation départementale du Mayo Danaï. Cétique de Walia, directeur M. Berwuro Dieudonné, professeur des lycées d'enseignement technique et professionnel précédemment en service dans le dit établissement. Délégation régionale des enseignements secondaires du littoral. Délégation départementale du Mungo. CES bilingue de Ndungé. Directeur, Madame Poikone Maria Toulor, professeur des lycées d'enseignement secondaire général, précédemment en service dans le dit établissement. CES de Maningouba 2, directeur, Monsieur Ehud Golazar, professeur des lycées d'enseignement secondaire général, précédemment en service dans le dit établissement. Délégation départementale du NCAM, CES de Diwom P44, directeur, Monsieur Tega Kennedy Bois, professeur des collèges d'enseignement secondaire général, précédemment en service dans le dit établissement. Délégation régionale des enseignements secondaires du Sud-Ouest, délégation départementale du Coupé-Manenguba, CES de Bouba 3, directeur M. Enongene Henri Aîné, professeur des lycées d'enseignement secondaire général, précédemment en service dans le dit établissement. Délégation départementale de la MEME, CES de Mbalangui, directeur M. Achire Thomas Echou, professeur des lycées d'enseignement secondaire général, précédemment en service dans le dit établissement. Les intéressés auront droit aux avantages de toute nature prévus par la réglementation en vigueur. Le présent arrêté sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais. Yaoundé, le 10 octobre 2024, a signé le ministre des enseignements secondaires, Nalo Valionga.
And that ends the 5 to 6 p.m. on the CRTV Radio Network, presented by Maureen Wanziwilai and Larissa Enganam, under the supervision of the editor-in-chief, Florence Mukou. Thanks for listening and stay tuned to programs on the CRTV.